Bonjour, bienvenue à l'appel trimestriel de l'ICANN. Je suis Brad Weiss, directeur des communications pour l'Amérique du Nord. L'appel d'aujourd'hui durera environ 60 minutes et notre ordre du jour est comme suit. Nous allons d'abord avoir une présentation générale de 10 minutes, une mise à jour sur les politiques de 10 minutes, une mise à jour sur la gestion de 15 minutes, une mise à jour financière de 10 minutes et ensuite il y aura une période de questions-réponses. Donc, en ce qui concerne cette question de la période des questions-réponses, si vous êtes sur Adobe Connect, tapez vos questions dans le petit cadre « Submit questions here ». Si vous êtes au téléphone, vous allez appuyer sur dièse 3 et l'opérateur vous mettra dans la queue des questions. Cet appel est enregistré en anglais, mais il est traduit simultanément en 5 langues. En français, en espagnol, en arabe, en russe et en portugais. Donc, si vous êtes sur une de ces lignes, même chose. Il vous suffit d'appuyer sur dièse 3 pour poser votre question. Et donc, nous entendrons l'interprétation en anglais de votre question. Alors, si nous n'avons pas suffisamment de temps, si vous avez des questions supplémentaires après la séance, veuillez les envoyer à engagement@icann.org. Il y a quelques questions qui ont déjà été soumises. Nous allons y répondre si nous avons le temps. Cette séance est enregistrée. Les liens aux documents seront publiés sur notre site web dans la section des ressources. Vous pouvez également trouver le lien dans le cadre Adobe Connect, dans la partie notes. Je vous demande également d'éteindre le micro de vos ordinateurs et de vos téléphones. Ceci étant, je passe la parole à notre président directeur général, Fadi. Merci, Brad. L'objectif, le raisonnement pour cet appel trimestriel des parties prenantes, c'est de fournir une fenêtre sur la prédictivité des activités de la CAN. Donc, encore une fois, c'est pour définir quels sont nos objectifs, notre mission stratégique. Ceci inclut le but de la CAN pour la mission de la CAN. Cet appel trimestriel se focalisera sur le quatrième trimestre de l'exercice 2015 qui vient de se terminer le 30 juin. Et donc je suis encouragée par tous les progrès qui ont été effectués cette année. Aujourd'hui, je vais vous fournir un petit survol des grandes lignes de ce trimestre avec 7 travaux principaux. Premièrement, le lancement du tableau de bord version bêta. Deuxièmement, le renforcement de la performance et de l'excellence opérationnelle. 3, le rôle de la conformité contractuelle. 4, l'importance de la transition du rôle de supervision de l'IANA dans le cadre du modèle opéré par l'ICANN. 5, l'amélioration de la responsabilité de l'ICANN par divers mécanismes robustes. Sixièmement, ce que nous faisons pour mieux soutenir la communauté. Et 7, septièmement, notre focalisation sur une participation immergée avec nos partenaires dans l'écosystème de gouvernance de l'Internet. Je suis très heureux de vous dire que nous anticipons le lancement de la version bêta avec les KPI sur la performance le 27 août. C'est en fait la dernière pièce du cycle de l'ICANN. Ceci nous permettra de gérer le management, ce que nous avons mis en place au cours de l'année passée, de manière à partager ceci directement avec vous. Il y a 5 objectifs, 16 buts et 28 KPI, donc indicateurs de performance identifiés lors du plan opérationnel sur 5 ans de l'ICANN. C'est en fait la même structure que le tableau de bord bêta. C'est un processus en cours et nous partageons cet outil de gestion avec le public dans un esprit de transparence et de responsabilité, de manière à ce que tous vous puissiez voir ce que fait ICANN, quel est le progrès d'ICANN par rapport à son plan opérationnel au fil du temps. Notre objectif est d'utiliser cet outil pour surveiller les tendances et pour amener de la clarté aux discussions. Alors, passons maintenant à la performance opérationnelle de l'ICANN pour le trimestre et pour voir un petit peu ce qui s'est passé en termes de tendance pendant l'année. Le budget et le plan opérationnel pour l'exercice 16 a été approuvé en juin par le conseil d'administration. En termes de questions financières pour l'exercice 2015, nous terminons l'année comme nous l'avions prévu, avec des revenus un tout petit peu en dessous de 102 millions. Et pour ce qui est des dépenses d'exploitation, nous en sommes à 101 millions de dollars. L'audit financier est en cours pour revoir l'année financière, pardon, l'exercice financier 2015. Les efforts de mondialisation de l'ICANN ont également progressé pendant l'année, puisque nous avons maintenant un bureau de liaison à Singapour qui a été élargi avec davantage de bureaux, et les trois bureaux vont continuer leur location, leur bail. Nous avons fait des progrès par rapport aux fonctions de l'ICANN, puisque 70% des fonctions de l'ICANN sont basées dans la région Asie-Pacifique, 90% pour l'EMEA et bien sûr à 100% pour l'AC et Amérique du Nord. Depuis juin 2015, notre personnel a augmenté de 53%. Par contre, lors de l'exercice 2015, comme prévu, nous avons ralenti la croissance de manière considérable et nous avons passé notre focalisation au développement de notre personnel actuel. Et donc, nous nous sommes concentrés sur l'Asie-Pacifique, l'Europe, l'Amérique latine et l'Afrique. Nous continuons d'améliorer nos structures de sécurité et nous restons vigilants par rapport à la sécurité. Et nous en parlerons un petit peu plus tout à l'heure au cours de l'appel. Nous avons également effectué notre première gestion de la Fondation pour un modèle d'excellence qui a permis d'identifier les améliorations dans l'organisation pour adopter un cadre de travail sur l'excellence. Alors, je vais vous parler un petit peu de la conformité contractuelle maintenant. La dernière année du programme sur la conformité contractuelle est terminée. Le taux est de 96% en termes de conformité. Il y a deux bureaux d'enregistrement qui ont été résiliés et trois lors de la phase de réhabilitation. Donc, vous pouvez consulter le rapport pour davantage de détails. Il y a une autre série qui a été lancée le 23 mars pour 11 TLD. Il y a un autre programme qui est en phase de réhabilitation maintenant. J'ai le plaisir de vous annoncer que l'ICANN a finalisé et a intégré 4 nouveaux membres du PIC-DRP, donc la procédure de règlement de litige relatif aux engagements d'intérêt public, qui consiste maintenant de 7, qui est constituée de 7 personnes. Passons maintenant à la transition IANA et à l'amélioration de la responsabilité de l'ICANN. La communauté continue d'être très occupée. Cela fait plus de 16 mois que la NTA a annoncé son intention d'effectuer la transition de supervision du rôle des fonctions IANA à la communauté multipartite. Cette annonce avait été très attendue. Et la reconnaissance d'une part de la maturité de l'ICANN et du soutien international par rapport au processus multipartite a été confirmée. Au cours des mois passés, énormément de progrès ont été faits par la communauté. Avec la transition IANA, avec les processus d'amélioration de la responsabilité de l'ICANN, nous en sommes arrivés à une phase très intéressante. L'ICG et le groupe CCWG pour la responsabilité ont publié leurs propositions pour consultation publique pour la transition des fonctions IANA à la communauté multipartite. Ces propositions sont disponibles pour consultation publique. Pour ce qui est de... Alors, excusez-moi, donc le 8 septembre, ce sera la fin de la consultation publique et pour donc l'ICG, et pour le CCWG, ce sera le 12 septembre que la consultation se terminera. Je suis heureux de vous annoncer que la NTIA a annoncé qu'elle va prolonger le contrat de l'ICANN pendant un an, donc avec une arrivée à échéance en septembre 2016. Donc il y a énormément de progrès qui ont été faits dans ce domaine et la prolongation du contrat est conforme au travail qui avait été prévu il y a des mois par la communauté multipartite. ces délais supplémentaires sont nécessaires pour que la communauté puisse terminer son travail et pour que l'ICANN puisse mettre en place les propositions. Comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois, il est important de bien faire les choses et nous sommes très heureux de savoir que la communauté a maintenant cette année supplémentaire pour mettre son plan en place. Nous avons beaucoup travaillé depuis mars dernier et nous sommes bien placés. Nous en sommes presque à la fin de la phase 1, mais nous n'y sommes pas tout à fait encore. Cette diapositive montre que tout ce qui a été fait pendant la phase 1 par la communauté s'appuie, ou plutôt dépend de la période de consultation publique, de manière à ce que les propositions soient robustes et correspondent aux critères définis par la NTIA pour donc mettre en place la transition. Le personnel de l'ICANN, la communauté, dans son ensemble, travaille avec acharnement pour que cette période de consultation publique soit réussie et pour s'assurer que le travail de l'ICG et du CCWG puisse en arriver à des propositions finalisées. Celles-ci devraient être finalisées aux environs de la réunion de Dublin, lors de l'ICANN 54, de manière à être prêt pour l'évaluation, la période de révision par la NTIA. Ensuite, je parlerai de certains des programmes, des efforts qui sont mis en œuvre pour soutenir notre communauté. Donc, l'ICANN s'engage par rapport aux outils qui sont nécessaires pour un investissement dans la communauté. Le programme NextGen reste très robuste avec 33 participants pour l'année 2015 avec des personnes de 18 ans, de 25 ans qui sont donc des personnes très jeunes et qui s'investissent de plus en plus. Le programme des boursiers est également un programme extrêmement plébiscité avec 140 boursiers pour l'année 2015. L'ICANN 54 avait reçu 446 candidatures avec 50 personnes qui ont été sélectionnées pour participer. Ces programmes nous ont permis de nous investir auprès de nouvelles parties prenantes qui permettent réellement d'impliquer la génération suivante dans la communauté. Nos efforts de sensibilisation se focalise sur la constitution d'une audience mondiale qui connaît bien l'écosystème de l'Internet par le biais de formations, de discussions de panels, de plateformes d'apprentissage, y compris ICANN Learn. Nous sommes en train de mettre à jour la plateforme ICANN Learn actuellement pour davantage de personnalisation individuelle. Alors, passons maintenant à mon dernier sujet sur la gouvernance de l'Internet. L'ICANN continue de participer au sommet mondial sur l'Internet Society en partenariat avec d'autres organisations. Nous avons présenté à la première consultation qui a eu lieu aux Nations Unies en juillet et nous avons soumis un document officiel avec la coopération de l'IGF et donc nous continuons de travailler de manière bilatérale avec les représentants à New York et nous allons avoir une autre réunion en octobre. L'ICANN suit également un processus de rédaction pour le document définitif en collaboration avec sociétés sœurs de l'ICANN, les sociétés techniques. Nous continuons de travailler à la préparation de la réunion du groupe multipartite en septembre. Il y a également la séance de l'IGF qui va avoir lieu. L'ICANN continue de soutenir différents efforts, différents forums sur la gouvernance au niveau régional et international. Pour ce qui est de l'initiative NEF mondiale, la réunion du Conseil inaugural a eu lieu à Sao Paulo le 30 juin. Il y a eu un communiqué qui a été publié, vous en avez le lien pour référence. Il y a donc des termes de référence qui ont été adoptés et nous avons adopté des procédures de gouvernance. Nous avons élu 5 coprésidents et ensuite nous avons appuyé les projets, les propositions de projets de la communauté. Ceci étant, je vais passer la parole à David Olive pour une mise à jour sur les politiques. Merci Fadi, je suis David Olive, je suis vice-président de l'ICANN pour le soutien au développement des politiques et je vais vous faire une petite mise à jour sur les activités de développement des politiques de ce trimestre. Comme vous le savez sans doute, le travail de développement de politique de l'ICANN en ce qui concerne les fonctions de coordination technique est formée et affinée par la communauté ECAN par le biais des trois organisations de soutien et influencée par les comités consultatifs, les quatre comités, selon un processus transparent, ouvert, multipartite, ascendant. Il y a d'autres organisations techniques et politiques qui sont également impliquées dans le développement des politiques, par exemple le groupe de travail sur le génie Internet, les registres Internet régionaux. La présentation d'aujourd'hui parlera des quatre groupes. Nous avons donc l'organisation de soutien aux extensions génériques, l'organisation de soutien aux extensions géographiques, l'organisation de ressources de numéros, l'organisation de soutien à l'adressage et le groupe de travail de génie Internet. Mon collègue Adiel vous parlera des deux derniers groupes après mon intervention. Alors je passe donc à la GNSO. Vous avez ici une description sur cette diapositive. En plus des sujets énumérés sur cette diapositive, il y a une étape significative qui a été atteinte en lien avec la transition sur la version YANA par le biais de l'approbation unanime du groupe de travail sur la transition finale. Il y a également beaucoup de travail en lien avec la responsabilité de l'ICANN. Au cours du quatrième trimestre, le Conseil a demandé un rapport sur les questions préliminaires de manière à explorer les procédures suivantes relatives au nouveau GTLD. Et le dernier rapport sur la traduction et la translittération a été adopté, ainsi que les recommandations du groupe de travail de mise en application et de politique de la GNSO. La GNSO dispose actuellement de 14 processus de développement de politique en cours, qui en sont à différentes étapes de travail, dont les services de droit privé et leur accréditation, ainsi que l'utilisation de mécanismes de droit curatif pour protéger les noms des organisations internationales. Ce trimestre a également vu la mise en application et les recommandations du groupe de consultation GAC-GNSO sur la question des PDP, ainsi que l'élargissement de la liaison GNSO au GAC. Il y a des discussions qui se poursuivent avec d'autres organisations de soutien et d'autres comités consultatifs de l'ICANN dans le cadre du groupe de travail intercommunautaire pour explorer ce qui peut se passer au niveau des produits et des enchères. Il y a également un plan de coordination des activités dans le cadre du format de la nouvelle stratégie de réunion de l'ICANN qui donc aura lieu en 2016. Au cours de ce trimestre, nous avons également vu la publication de consultations publiques sur le rapport de l'examineur indépendant pour revoir l'efficacité de la GNSO. Nous passons maintenant à la communauté des extensions géographiques. Les processus de transition et de responsabilité continuent de représenter une focalisation très importante, comme vous le voyez sur cette diapositive. Étant donné l'importance de ces deux processus et en étroite collaboration avec les organisations régionales CCTLD, il y a des efforts critiques qui sont poursuivis pour impliquer toute la communauté CCTLD, y compris les membres qui ne font pas partie de la CCNSO. Tous sont impliqués dans le processus de décision par rapport à la proposition sur la supervision du rôle des fonctions donc CWG. Par exemple, en plus d'autres sessions sur ce sujet, la CCNSO a dévoué 4 séances lors de leur réunion à Buenos Aires pour l'information, la discussion sur la proposition de supervision donc CCWG qui donc a été fortement appuyée par la communauté CCTLD présente à Buenos Aires. Récemment, au cours du dernier trimestre, le Conseil a adopté le cadre d'interprétation, donc un processus de politique clé sur la façon dont la gestion d'un CCTLD pourra être déléguée ou redéléguée d'un gestionnaire à un autre. En attendant la résolution du Conseil de juin 2015, qui donc demandera au personnel de mettre en application, le Conseil a nommé le président et le coprésident de la FOIWG, à titre consultatif, et pour informer la communauté sur les progrès effectués. Dans d'autres domaines, le groupe de travail sur la planification opérationnelle et stratégique de la CCNSO a travaillé de manière diligente sur ses commentaires par rapport au plan et budget d'exploitation pour l'année 2016 pour la CAN. Enfin, nous avons lancé et mis en application un référentiel avec des détails de contact pour permettre la transmission des emails lors des incidents de sécurité potentiels. La CCNSO crée un comité pour superviser, pour guider le développement et l'utilisation de ces référentiels à l'avenir. Je vais maintenant passer la parole à Adiel, qui est vice-président de l'engagement technique, pour vous donner une mise à jour au nom de l'ASO, de la NRO et de l'IETF. Adieu. Merci beaucoup, David. Je vais continuer avec les activités NRO et IETF. Comme vous le savez sans doute, nous avons eu une réunion récemment. Comme d'habitude, cela a représenté une opportunité pour la communauté technologique de faire progresser le travail sur les normes et pour explorer d'autres domaines d'intérêt. L'IETF s'implique de plus en plus dans la coordination d'activités telles que les marathons de programmation. Ces protocoles sont mis en application en temps réel. Ces donc marathons de publication travaillent sur d'anciens protocoles, mais également sur de nouveaux, donc DNSSEC et autres exemples. Certains sujets de discussion au sein de la communauté sont liés d'une manière générale aux questions de la communauté de nommage. Il y a eu des discussions sur les TLD spéciaux, par exemple RFC 761. Ceci définit le cadre de travail. Vous pouvez suivre la discussion là-dessus sur la liste de diffusion du groupe de travail IETF. Il y a également un autre groupe de travail qui a été formé pour permettre de standardiser une spécification pour la description des TLD et pour les codes, ou les points codes et les règles utilisées dans la zone à racine. Nous sommes très impliqués dans cette initiative et je crois que ceci est très bon pour les progrès du système au niveau mondial. Suite à la proposition proposée, Liana Plane et l'IABE ont travaillé de manière étroite avec l'ICG pour revoir le document, pour se focaliser sur les interactions entre l'IETF et d'autres parties prenantes, pour assurer la cohésion ainsi que la poursuite de la stabilité des fonctionnels, qui est clé donc pour le travail de l'ETF. Alors du côté ASO, je voulais simplement vous indiquer que l'ASO a donc sélectionné un nouveau représentant au conseil d'administration de l'ICANN, donc au siège 9. Ron da Silva a été nommé. Ron da Silva, avant d'avoir été sélectionné, était membre ASO AC, donc il a été remplacé par John Sweeting de la région Arena. Ceci aura lieu officiellement lors de la réunion de Dublin. Comme vous le savez, les RIR effectuent leur processus de développement de politique au niveau régional et actuellement il y a plus de 15 politiques de développement. Donc il y en a deux qui sont liées à l'ASN, un au DNS, 9 sur l'IPv4, 4 sur les PV6, 1 sur le PDB et 3 sur la région d'utilisation. Et donc, actuellement, beaucoup d'activités sur l'IPv4 dans la région ARIN. Vous pouvez lire davantage d'informations là-dessus si vous utilisez le lien qui apparaît sur la diapositive. Donc, autre sujet lié en ce qui concerne la transition YANA, la deuxième version préliminaire de la convention de service RIR ICANN a été publiée et donc vous pouvez maintenant soumettre vos commentaires. Il y a eu également une annonce du fonds de stabilité conjoint RIR avec 2,1 millions de dollars qui ont été placés, qui ont été promis, pardon, et vous pouvez trouver davantage d'informations sur le site en suivant le lien à la diapositive. Nous passons maintenant à la dernière phase, donc les réunions de politique RIR. Nous en sommes à la dernière phase, donc APNIC 40 qui aura lieu à Jakarta en Indonésie du 3 au 10 septembre, suivi de l'ACNIC 24 en octobre, ainsi que ARIN 36, donc à Bogota et à Montréal respectivement, RIP 71, donc fin novembre, avec la réunion à Bucarest en Roumanie, et AFRINIC à Brazzaville au Congo. Nous encourageons la communauté à se joindre à la liste de diffusion et à participer également, si possible, assister à ces réunions, parce que ceci peut représenter beaucoup d'intérêt pour la gestion des adresses. Merci. Donc c'est tout pour la mise à jour sur le développement des politiques. Et je vais maintenant passer la parole à David Conrad, mon collègue, qui est donc directeur technologique à l'ICANN. David, c'est à vous. Merci, Adiel. David Conrad, je vais vous donner une mise à jour rapide sur la gestion, sur donc la technologie de l'Internet à l'ICANN, ainsi qu'une mise à jour sur la division des domaines mondiaux. Je vais également vous parler des mesures sur la conformité contractuelle pour le trimestre et vous faire part de certains efforts d'engagement au niveau international. En juin, nous avons reçu un rapport dans le cadre de notre audit de sécurité de l'EDOS, un prestataire de services d'évaluation de la sécurité, qui nous a donc fourni une recalibration de l'environnement de cybersécurité de l'ICANN. Ils ont identifié des résultats pour cette année financière qui montrent que l'ICANN a amélioré son positionnement en termes de cybersécurité au cours de l'année passée. Lorsque l'évaluation qui a eu lieu par rapport donc au contrôle de sécurité critique sur la cybersécurité, l'ICANN avait amélioré ses contrôles de sécurité de 20% par rapport à l'année précédente. Mais nous savons qu'il y a quand même des choses à améliorer pour améliorer encore la protection par rapport aux menaces à la sécurité, à la cybersécurité. Ces améliorations sur la sécurité sont nécessaires. Vous l'avez peut-être entendu récemment, il y a des mots de passe chiffrés d'ICANN.org qui ont été obtenus par une personne non autorisée. Les investigations sont encore en cours, mais les mots de passe chiffrés auraient été obtenus par un accès par un prestataire non autorisé. Il n'y a aucune donnée financière ou opérationnelle ni de système YANA qui ont été impliquées dans cette violation. Cependant, par mesure de précaution, nous avons immédiatement recommandé que tous les utilisateurs d'ICANN.org changent leur mot de passe. L'ICANN reste vigilante par rapport à ces menaces et nous continuons de renforcer notre positionnement par le biais d'audits, de vérifications, de formation du personnel et autres. Pour mieux gérer les services de sécurité, nous avons créé une grande liste, une liste principale des services fournis par les technologies de l'information ou par le public, avec des informations sur ces services pour soutenir les différentes questions. Par exemple, les efforts de chiffrage focalisés sur les serveurs. Avec cette liste de services en place, nous avons revu les services pour la sensibilité des données, par rapport à la sensibilité des données, pour scanner les vulnérabilités, pour réparer toutes les vulnérabilités identifiées et pour certifier les services. Nous utilisons un service de partie tierce, Cigital, donc une société séparée, qui scanne de manière manuelle et autre. Toute question identifiée est vérifiée et testée jusqu'à ce que nous soyons absolument sûrs qu'il n'y a plus d'exposition au risque. Considérons maintenant la mise à jour technologique. Donc, conformément à la décision de focalisation sur la technologie, nous sommes passés de 2 à 6 experts dans les différents domaines dans le bureau technologique. Donc, les noms, les numéros, les paramètres de protocole. Avec la relocalisation du groupe, donc avec John Crane, la focalisation technologique de l'ICANN est passée à 11 avec un budget de 5,1 millions de dollars pour l'année 2016.
Les contrats en cours en ce moment comprennent l'élaboration d'un plan pour l'amélioration de l'Internet et on a d'ailleurs lancé une période de consultation publique à cet effet. On s'occupe aussi des firewalls pour assurer qu'ils respectent les standards de l'industrie et que tout fonctionne correctement. On essaie de soutenir la mise en œuvre technique des différentes fonctions IANA et de participer aux différents forums techniques, ce qui comprend bien sûr par exemple les forums du DNS et nous fournissons des formations sur le DNS et l'initiative de sensibilisation des menaces mondiales. Dorénavant, on espère voir le personnel de l'ICANN consacré à cette question participer à ces questions d'identifiants. Nous sommes en train d'élaborer une feuille de route technique préliminaire qui sera fournie à la communauté pour leurs commentaires publics. Cela nous permettra de mieux préparer l'ICANN pour qu'elle soit mieux adaptée aux différentes technologies qui surgissent, pour voir comment les identifiants seront utilisés dans l'avenir aussi. Et puisqu'on y est, je voudrais que l'on passe maintenant à l'aspect de la conformité contractuelle de l'ICANN. Vous voyez ici les différentes mesures qui montrent la conformité des tierces parties aux normes de l'ICANN en termes généraux comme résultat du suivi de l'ICANN. Le but de notre département de conformité est d'assurer que toutes les parties se conforment à nos différentes exigences. Vous voyez, on avait à peu près 14 000 plaintes pour l'année dernière. Notre processus s'est amélioré par rapport au troisième trimestre et on a raccourci les délais de traitement. Au long de l'année fiscale, cependant, l'ICANN a pu résoudre 99 des plaintes en moins de 12 jours. C'est ça la moyenne. Dans le quatrième trimestre, les délégations de nouveaux GTLD ont dépassé nos valeurs précédentes et en juin 2013, on avait 1277 délégations. Avant cette date, on avait 749, desquelles 328 avaient été déléguées au long de 2015 et 101 avaient été déléguées dans le quatrième trimestre. À la fin de ce trimestre, 995 nouveaux contrats avaient été signés, desquels 140 étaient signés en 2015 et 123 dans le quatrième trimestre. Comme vous saurez, l'ICANN a un contrat de registre pour chaque registre et les mêmes chaînes qui doivent être opérées sont considérées. C'est ce qu'on appelle les chaînes de conflit. L'ICANN essaie de résoudre la contention de chaînes ou le conflit entre les chaînes, entre les parties. Mais si ce n'est pas possible d'arriver à une résolution entre les parties, l'ICANN a un processus de résolution des litiges. En 2015, 224 sur 223 ont été résolus. Mais seulement 213 ont été résolus avec la participation de l'ICANN. Le reste a été résolu par les parties. Les différents revenus des enchères représentent 58 millions de dollars américains. Lors de la réunion ICANN 53, la communauté a participé aux discussions sur le processus pour voir comment utiliser les fonds provenant des enchères et ces discussions d'ailleurs se poursuivent toujours. Le programme des nouveaux GTLD a maintenant dépassé le point de départ et notre département se concentre sur la révision des buts originaux et en particulier avoir 8 domaines d'intérêt particulier, donc la mise en œuvre du programme, la sécurité, la stabilité, le choix des consommateurs, la confiance des consommateurs, la concurrence. En même temps, l'ICANN a un programme d'études des consommateurs pour voir le choix, la concurrence et la confiance des consommateurs dans la durée. Tout cela est disponible sur le site web de l'ICANN. Je voudrais maintenant que l'on parle des progrès faits en matière d'IDN. Ces noms de domaines internationalisés, aussi connus comme IDN, sont utilisés partout dans le monde pour naviguer dans le web. Le programme des TLD d'IDN se centre sur la manière de pouvoir utiliser les IDN dans le système des noms de domaines. Chaque système a ses propres règles de génération des tickets surtout, et différents délais de création. Les communautés non inscrites, en particulier en Arménie et en arménien et en arabe, ont collaboré pour la génération d'étiquettes d'écriture non inscrite. Il y a 28 écritures ou scripts qui sont d'importance pour la communauté et la communauté élabore un processus pour accélérer l'élaboration de ces règles de génération d'étiquettes pour pouvoir permettre la présence en ligne des différentes communautés qui n'ont pas l'écriture ASCII. Différentes communautés évaluent les CCTLD d'IDN et on a 37 pays et territoires qui ont déjà évalué correctement leurs étiquettes. Différentes scripts sont également évalués, donc on a une différence entre la quantité d'étiquettes et la quantité de pays et de territoires qui ont présenté leurs demandes. La Grèce est le pays qui a fait cette annonce récemment, le plus récemment. L'idée est d'avoir un Internet qui soit multilingue. Et donc les règles et les processus de génération d'étiquettes fonctionnent également pour différents processus et différents services. Et c'est à ce point-là qu'il faudrait que l'on pense à l'acceptation universelle. Donc même si on est en train de mettre en œuvre les IDN, on a toujours des problèmes d'infrastructure en Internet. Spécifiquement, on a du logiciel et d'autres systèmes qui n'acceptent pas les IDN. Pour s'en occuper, l'ICANN soutient une initiative du web qui vise à pouvoir atteindre l'acceptation universelle. Cela implique qu'au niveau mondial, on pourra accéder à n'importe quel nom, de n'importe où, à travers n'importe quel service ou fournisseur de clients d'email. Le groupe de direction de l'acceptation universelle a d'ailleurs créé une charte pour commencer à travailler. Ils ont également élaboré un document informatif qui comprend cette initiative d'être prêt pour l'acceptation universelle et ils ont commencé à travailler en identifiant l'internalisation des adresses mail comme le principal défi. On passe maintenant au ticket IANA. Ces billets IANA sont très importants. Comme le système de la zone racine, ils gèrent différentes demandes de paramètres de protocole, différents événements de numéros et d'autres événements. Ce système traite les différentes demandes de mise en œuvre des noms de domaine et des paramètres de protocole et gère les allocations aux différents registres Internet. Lorsque l'on voit les tickets IANA en A1, vous voyez qu'il y a eu 4 attributions de ressources de numéros nouvelles dans notre nouvelle année fiscale 2015, dont 2 correspondaient au 4e trimestre. L'assignation de ce type de ressources n'était pas en général très importante, mais on voit une croissance pour l'exercice fiscal 2015. Ce système de tickets IANA fournit des milliers de et reçoit des milliers de demandes par mètre de protocole. Et des demandes générales aussi. Vous voyez qu'en termes de demandes générales, on a eu 1150 demandes générales pour l'exercice fiscal 2015. Et l'année précédente, en 2014, on avait reçu 1117 demandes générales. La différence entre les deux années n'est que de 327 demandes générales. D'autre part, les demandes de non ont beaucoup augmenté. Il y a une grande variation entre les deux ans. On avait 837 demandes liées aux demandes de non en 2014 et on a eu 1586 demandes dans l'exercice fiscal 2015, dont 565 correspondaient à au quatrième trimestre de l'exercice fiscal. Cela correspond à différents programmes qui ont été mis en place et on s'attend à voir différentes demandes qui augmenteront suivant la quantité de demandes de nom de domaine qui sera reçue dans un avant. Maintenant, pour ce qui est de la performance du service à la clientèle, on voit des tendances générales pour l'exercice fiscal 2015 qui montrent qu'on a amélioré notre service clientèle. Et cela est dû au fait que l'ICANN a ouvert différents services pour gérer les communications avec les candidats de TLD, etc. Les initiatives de communication ont duré plus que simplement le trimestre et donc on a amélioré notre communication en attendant ouvert ce service de communication. Les cas qui n'étaient pas résolus ont augmenté parce qu'on a eu davantage de communication avec les clients. Notre capacité de répondre dans les 7 jours aux différentes demandes ont augmenté et on a d'ailleurs dépassé notre but parce qu'on a pu résoudre 80% des différents cas, différents dossiers reçus en moins de 7 jours. On a un cible également pour le délai de la résolution et on a dépassé ce qu'on espérait. On va maintenant voir la participation de l'ICANN et des différentes parties prenantes qui ont participé. Au niveau mondial, on s'occupait de la partie principale de l'initiative de participation mondiale et dans ce dernier trimestre, l'ICANN a eu plus de 100 événements dans 35 pays ayant ainsi atteint plus de 13 000 personnes. Dans ce graphique, vous voyez également la division entre régions et entre parties prenantes. En Asie-Pacifique, par exemple, on a eu une grande participation très divisée dans les différents secteurs. Un même événement pourrait avoir différents secteurs de parties prenantes qui participeraient à ce même événement. On encourage bien sûr la participation aux différents processus de l'ICANN. Et si on voit la page wiki de participation des différentes parties prenantes, on peut avoir davantage d'informations sur cette question. Avec cela, je vais conclure la partie de mise en œuvre de la gestion et je donnerai maintenant la parole à Xavier qui va nous donner une mise à jour des finances de l'ICANN. Merci David. Xavier Calvez prend la parole. Comme Fadi a dit, nous venons de conclure notre exercice fiscal 2015 à la fin de juin et donc je présenterai maintenant nos informations financières pour tout l'exercice financier qui est allé de juillet 2014 à juin 2015. Les informations présentées comprennent des données réelles comparées au budget qu'on avait prévu à partir des informations des revenus opérationnels de l'ICANN suivies par une révision des déboursements. Nous allons par la suite vous donner une mise à jour du programme des nouveaux GTLD et nous conclurons avec une information de l'état des fonds gérés. Nous sommes en train d'avancer avec notre audit annuel indépendant et donc toutes les informations financières présentées ici ne sont pas auditées pour l'instant et elles pourraient faire l'objet de modifications jusqu'à ce que l'audit sera complété dans les prochaines semaines. Nous allons maintenant décrire nos principales sources de revenus. Les revenus de l'ICANN proviennent principalement de deux secteurs. D'une part, à gauche, vous voyez la quantité d'enregistrement de noms de domaine. Et puis à droite, deuxièmement, on a la quantité de parties contractantes avec l'ICANN. Ces deux aspects sont surtout externes au contrôle de l'ICANN. La quantité d'enregistrement de noms de domaine à gauche sont ceux qui couvrent les frais par transaction, ce qui représente 74% de nos revenus. et qui sont collectées des titulaires de nom de domaine à travers les registres et les bureaux d'enregistrement. Donc si vous êtes un titulaire d'un nom de domaine, vous avez ici les frais annuels de l'ICAD pour un an, qui est de 18 à 25 centimes de ce que vous voyez dans la facture que votre bureau d'enregistrement vous envoie. Sur la droite, la quantité de parties contractantes à différents frais fixes qui représentent 22% de nos revenus. Un exemple est le frais d'accréditation de 4 000 $ américains payés chaque année à l'ICAN par chaque bureau d'enregistrement. L'autre revenu qui consiste aux contributions et au parrainage représente 4% des revenus de l'ICAN. Nous allons maintenant comparer ces ressources au budget prévu pour l'exercice fiscal 2015. Tel que prévu, notre revenu final pour l'exercice fiscal 2015 est un peu moins que le budget prévu de 102 millions de dollars américains et cela est cohérent avec l'aperçu que nous avions partagé avec vous en avril lors du dernier appel trimestriel. Par catégorie, les frais par transaction des registres et des bureaux d'enregistrement sont conformes à notre budget, les deux avec moins de 2% de déviation. Puis la tendance des frais fixes des registres mineurs sont moins que le budget. Cela continue depuis le début de l'année et ça représente 5 millions de dollars à la fin de ces 12 mois. Tel qu'on a indiqué lors des trois derniers appels trimestriels, c'est le résultat d'une délégation plus lente que prévu pour les nouveaux TLD. Les autres frais des bureaux d'enregistrement sont plus que ce qu'on avait prévu parce qu'on a des frais uniques qui résultent d'à peu près 450 nouvelles accréditations de bureaux d'enregistrement. Le reste des revenus sont un peu moins que prévu, surtout à cause des revenus des parrains qui ne sont pas ce qu'on avait prévu. On va maintenant voir nos déboursements pour les opérations de l'ICAN. Comme vous voyez, notre principale catégorie de déboursement sont les coûts du personnel, ce qui correspond à peu près au paiement du salaire des 293 membres du personnel tout au long de l'exercice fiscal 2015, ce qui représente à peu près la moitié de nos déboursements totaux. Les coûts de déplacement et des réunions comprennent les coûts, bien sûr, du déplacement, du logement et de louer un endroit où tenir les réunions annuelles. Les catégories des services professionnels sont trois, principalement. D'une part, les services contractés qui soutiennent les trois réunions annuelles de l'ICAN, puis d'autre part, les frais juridiques, et puis, troisièmement, les services linguistiques pour la transcription, la traduction et l'interprétation. Les coûts administratifs comprennent surtout les coûts des installations pour tous les bureaux de l'ICAN, la dépréciation des actifs et les coûts des réseaux et des télécommunications. Voyons maintenant comment ces déboursements correspondent au budget. La tendance de moins de déboursements qu'on a vu au long de l'exercice fiscal se confirme pour ce quatrième trimestre. Les déboursements totaux, qui combinent à la fois les déboursements opératifs et de capital, représentent un total de 105 millions de dollars américains, ce qui se compare aux 109 millions de dollars prévus dans le budget. C'est-à-dire qu'on a une variation positive de 4 millions de dollars après 12 mois. Tel qu'on l'avait identifié au début de l'année, on avait un risque d'avoir moins de budget que prévu dans le budget et donc on a immédiatement commencé à agir pour réduire nos déboursements et pour assurer que nos déboursements annuels seraient moins que ce qu'on avait prévu pour la fin de l'année. Nous allons maintenant revoir les déboursements par initiative approuvée. Ce sont les initiatives qui ont été approuvées par l'initiative de transition de la supervision du gouvernement des États-Unis. Le taux de déboursement de l'initiative de transition de la supervision du gouvernement des États-Unis a, tel que prévu, augmenté sensiblement au long de la deuxième moitié de l'année fiscale, de l'exercice fiscal, ce qui a conclu à un total de 9 millions de dollars américains pour l'exercice fiscal total. Ce montant est plus que ce qu'on avait originalement prévu dans le budget, qui était de 7 millions de dollars américains. Cela correspond surtout au conseil juridique indépendant qu'on a engagé pour soutenir les groupes de travail de la communauté qui ont coûté 3,1 millions de dollars, ce qui n'était pas prévu dans le budget. Le montant total des déboursements de transition de la supervision du gouvernement des États-Unis sont fondés par le fonds de réserve de l'ICANN. Passons maintenant à voir comment les revenus et les déboursements se compensent pour l'année fiscale 2015. Au total, les revenus et les déboursements des opérations de l'ICANN sont équilibrés, surtout entre les différents déboursements de base et les déboursements correspondant aux initiatives. On a moins de revenus, comme on a vu, et on a plus de déboursements des initiatives qui se compensent parce qu'on a réduit nos déboursements de base. Cela veut dire que l'exercice fiscal 2015 montre des revenus et des déboursements équilibrés, tels que prévu, ce qui montre notre capacité de pouvoir mener à bien la mission de l'ICANN et d'adapter nos activités aux différentes circonstances pour pouvoir nous maintenir responsables en termes fiscaux. Voyons un peu ce qu'on prévoit pour l'exercice fiscal 2016. Le budget de l'exercice fiscal 2016, approuvé en juin 2015 pendant la 53e réunion publique de l'ICANN à Buenos Aires, montre une augmentation dans les revenus et dans les déboursements en 1-1, ce qui veut dire que les opérations de base de l'ICANN, en fait, sont compensées par les revenus qui correspondent à cette catégorie. Les initiatives approuvées pour l'exercice fiscal 2016 de 12 millions de dollars américains comprennent la conclusion du projet de transition de la supervision du gouvernement des États-Unis, ainsi que la mise en œuvre des propositions qui ont été approuvées par le conseil d'administration et par les autres initiatives telles que le renforcement de l'infrastructure de TI et l'initiative de la responsabilité publique. Nous allons maintenant voir les informations financières relatives au programme des nouveaux GTLD. Le programme des nouveaux GTLD est un programme pluriannuel de 360 millions de dollars américains pour la création de nouveaux domaines de premier niveau. Ce programme est complètement fondé pour les frais de candidature qui ont été collectés en 2012. C'est grâce à ces fonds qu'on peut payer. Après 3 ans de travail d'évaluation et de délégation entre l'exercice fiscal 2013 et 2015, on a déboursé plus de 200 millions de dollars américains pour traiter l'évaluation des candidatures et pour repayer les candidatures qui n'ont pas suivi le cours naturel. À peu près 70 millions de dollars américains de déboursement d'évaluation approfondie et de remboursement devraient être traités pendant la période restante du programme, ce qui nous donnerait 89 millions de dollars de fonds qui nous restent pour pouvoir payer les déboursements non prévus, ce qui comprend la mitigation de risques. Centrons-nous maintenant sur les informations du programme pour l'exercice fiscal 2015. Nous confirmons ici la tendance des autres trimestres 2015. Évaluons que les déboursements en général sont conformes à ce que le budget prévoyait, à l'exception des remboursements. Les remboursements pour les candidatures qui n'ont pas abouti à une délégation correspond à 18 millions de dollars américains, bien qu'on a reçu 10 millions de dollars comme budget pour l'année. Alors, cette quantité de remboursement plus importante correspond surtout à différents délais de non-candidature. Voyons maintenant donc l'état des fonds dans notre période de gestion. Les fonds liés au programme sur la gauche comprennent les fonds du programme des nouveaux GTLD et les procédés des enchères. Comme vous voyez, les résultats des enchères ont augmenté pendant l'exercice fiscal 2015 comme résultat des ventes aux enchères. Les fonds des nouveaux GTLD ont diminué comme résultat des déboursements d'évaluation et des enlèvements de candidatures qui ont été remboursés. Les fonds opérationnels de l'ICANN, sur la droite, montrent une augmentation légère des fonds opérationnels et des fonds de réserve stables. Cela conclut donc la présentation financière et je voudrais donner la parole à Mran qui va maintenant modérer la séance des questions et des réponses. Mran White prend la parole. Merci Xavier. On reçoit des questions déjà et je vais les lire à mesure que je les recevrai afin que tout le monde puisse suivre et participer. On avait déjà reçu des questions avant l'appel, une pour Adiel. Et c'est quel est le rôle du trust de l'IEDF? Merci Mran. Dis Adiel. En fait, ce fonds est prévu pour assurer que l'on utilise correctement ces fonds. Et du côté de l'IEDF, vous avez toutes les informations ici sur la salle de chat, mais je sais que le trust de l'IEDF a déjà été mentionné un nombre de fois au long de ce processus de transition de Yana, et cette discussion est toujours en cours. J'encourage donc les personnes à suivre les discussions au niveau de la communauté. Et je partagerai le lien pour que tout le monde puisse voir la description complète du trust de l'IEDF sur le chat. Brad prend la parole. Merci Adiel. La question suivante est pour Akram de John Poole. Il demande quelles sont les données ou les mesures que l'ICANN capture ou mesure sur les questions de l'acceptation universelle des nouveaux GTLD, comme par exemple les noms de domaine des nouveaux GTLD qui ne fonctionnent pas tels que prévus sur Internet ou les rapports qu'on reçoit, des liens qui ne fonctionnent pas. Donc est-ce que ces données sont capturées de manière constante et est-ce que les données ou les mesures seront publiées pour que la communauté Internet mondiale et les titulaires de noms de domaine puissent être au courant de ces effets qui sont liés au nom de domaine de nouveau GTLD. Merci. Merci pour votre question, John, dit Akram. Bien qu'on n'a pas accès à ces données dont vous parlez, nous capturons tout cela et nous travaillons au niveau de l'acceptation. La communauté, d'ailleurs, a déjà organisé un nombre de réunions et commence à travailler sur l'élaboration de mesures de mitigation pour l'acceptation universelle et il participe à ces différentes réunions et ils nous y ont appliqués. Ce qui est important est de comprendre qu'il doit y avoir des problèmes à ce sujet, mais pas des problèmes de l'ICANN, dans le sens que les nouveaux GTLD en réalité fonctionnent, mais nous savons qu'il doit y avoir des problèmes à résoudre au niveau du réseau. Donc nous avons déjà demander une étude pour considérer la question en profondeur et pour pouvoir bien comprendre à quel point ont lieu ces problèmes pour voir comment travailler. Donc on compte fournir ces informations au département une fois qu'on les aura pour travailler ensemble sur la résolution de ces problèmes. David Conrad sans doute pourrait ajouter d'autres informations à ce sujet. Merci. Brad prend la parole. Merci Akram. La question suivante est de Zakir, un boursier de l'ICANN du Pakistan. Et c'est une question pour Fadi. Il dit qu'après l'annonce récente de la NDIA qui disait qu'il prévoyait de prolonger le contrat IANA avec l'ICANN pour une année de plus, jusqu'au 30 septembre de l'année suivante, il disait également qu'après 2016, la NDIA a l'option de prolonger le contrat de jusqu'à 3 ans de plus si nécessaire. Est-ce que vous croyez que le processus de transition sera complété avant septembre 2016 ou croyez-vous que le contrat devra être prolongé davantage? Fadi prend la parole. Merci Zakir. Je vais demander à mon collègue David Conrad de répondre complètement à la réponse de Akram parce que je pense qu'il y a des détails à ajouter d'abord. David Conrad prend la parole. Merci Fadi. Oui, on travaille avec 18 NIC et TNIC. Et l'élaboration de l'étude dont on parle, en réalité, montre le niveau d'acceptation de ces nouveaux GTLD dans l'éventail du programme de nouveaux GTLD. Ce que nous avons fait avec APNIC était d'élaborer une étude sur l'infrastructure et des demandes du DNS pour les noms de domaine de nouveau GTLD, qui était vraiment le cible de l'étude, pour voir combien de ces noms de domaine de nouveau GTLD étaient considérés et reçus, et Apeni, qui en réalité est prêt déjà à communiquer que le problème de savoir quel était le niveau d'acceptation a été résolu à travers le travail du groupe de travail. Je suis prêt, bien sûr, à partager les résultats de ces études avec vous. On a également une liste de travail d'APENIC sur laquelle on compte de continuer de travailler pour voir les améliorations ou les réductions au niveau de l'acceptation des nouveaux GTLD pour voir si ces nouveaux GTLD sont acceptés ou pas. Merci.
Merci David. Je vous passe la parole, Zakir, ou je vous réponds, pardon, Zakir. La réponse rapide, c'est que selon toutes nos attentes, sur la base du point de vue de la communauté, c'est que nous n'aurons pas besoin de davantage de temps après septembre 2016. Je vous rappelle peut-être d'ailleurs que le gouvernement des États-Unis a demandé aux responsables de la communauté de leur donner une estimation par rapport à la finalisation des propositions. Et donc ces estimations sont revenues au gouvernement des États-Unis en leur indiquant donc des délais de juin-juillet 2016. Et donc le gouvernement américain, de manière à nous donner un petit peu plus de temps, a opté pour donc la totalité de l'année. Donc je crois que c'est une méthode tout à fait sage qui nous donne un petit tampon de quelques mois pour tout finaliser d'ici septembre 2016. Et donc ces délais, vous le savez sans doute, sont juste avant les élections présidentielles aux États-Unis. Ce n'est pas que nous soyons préoccupés par rapport à ces élections, mais je pense qu'il faut quand même prendre ceci en considération. Je voulais également mettre l'accent sur le fait que ces délais, ils sont en fait poussés par la communauté. Ce n'est pas moi, ce n'est pas le conseil d'administration, ce n'est pas la CAN, c'est le travail de la communauté. Et c'est un travail d'ailleurs que vous pouvez observer, qui est complexe, qui implique beaucoup de parties prenantes. Et comme je l'ai noté tout à l'heure, il est très important que tous nous prenions part à cette période de consultation publique. Enfin, en termes de risques, ces délais, eh bien, ils nous appartiennent, ils sont entre nos mains. En d'autres termes, si nous compliquons les choses, si nous ne respectons pas nécessairement les critères, eh bien, ça c'est notre problème. Donc, je vous demande d'être vigilant, de faire bien attention à ces délais, il ne nous reste pas énormément de temps, et en tant que responsable de la communauté, beaucoup d'entre eux nous ont dit qu'il fallait se focaliser sur le minimum qui est nécessaire de manière à respecter les critères pour passer à la phase suivante, qui est très importante. Merci. Merci Fadi. Nous avons une question de Jim Pendergast. Xavier, pour vous, donc les frais inattendus, au bureau d'enregistrement, 450 nouvelles accréditations. Donc, sur ces frais, combien d'entre eux correspondent à de nouveaux bureaux d'enregistrement uniques par rapport à une... ou est-ce qu'il s'agit d'une seule famille de bureaux d'enregistrement? Merci pour cette question. Je n'ai pas le chiffre exact. Donc, 450 nouvelles accréditations. Mais ce chiffre est composé de deux grandes familles de bureaux d'enregistrement. Et puis, il en reste encore quelques-uns qui sont donc des bureaux d'enregistrement séparés, des accréditations séparées. Alors, les chiffres précis, nous essayerons de vous les obtenir par la suite. Merci. Merci, Xavier. Akram, nous avons une question pour vous de Ivan Raskazov. Ivan Raskazov. Les marchés de noms de domaine de l'ICANN sont de plus en plus sous pression au niveau politique et réglementaire. Est-ce que l'ICANN a considéré la création d'une organisation réglementaire, autoréglementaire de l'industrie au niveau mondial de manière à répondre à cette pression? Akram au micro. Il faut bien comprendre que l'ICANN n'est pas une entité réglementaire. Et donc, nous n'avons pas ce rôle. Il pourrait peut-être être bon, ce n'est pas quelque chose à quoi nous n'avons pas pensé, mais il est peut-être bon que la communauté fasse quelque chose par elle-même, que la communauté en elle-même décide de faire ou non quelque chose par rapport à cette question. Merci Akram. Fadi, nous avons une question de Nancy Scola à Washington DC pour vous. Est-ce que M. Shehadi pourrait parler un petit peu de l'impact de l'élection présidentielle aux États-Unis en 2016 sur la transition de la NTIA? Et dans ce même domaine, en quoi est-ce que le fait que vous allez partir va avoir un impact sur le processus de transition? Merci Madame Scola. Je ne pense pas que le changement ou le changement potentiel de parti politique à la Maison-Blanche va avoir un impact sur notre travail, sur la transition. Ceci en grande partie parce que nous avons réussi à obtenir un consensus pratiquement total à Washington par rapport à l'importance de cette transition. Nous avons montré que cela représentait quelque chose de positif pour l'Internet et pour les États-Unis. D'ailleurs, le consensus que nous avons obtenu entre les différents partis, entre les différentes entités gouvernementales, nous donne confiance et nous pensons que l'élection présidentielle ne sera pas en elle-même quelque chose qui pourra changer le travail qui sera fait. Et je crois que le gouvernement des États-Unis a montré au fil des années son engagement inébranlable par rapport au modèle multipartite. Et donc ce n'est pas maintenant que quelqu'un au gouvernement des États-Unis va se mettre à changer de point de vue là-dessus. Et je crois qu'il respecte le travail absolument extraordinaire, réellement extraordinaire, que la communauté multipartite a effectué pour la transition. Ceci étant, il faut quand même noter que dans toute capitale, dans le monde entier, il y a beaucoup d'oxygène lors des phases d'élection. Donc l'attention, le temps, tout se refocalise sur le processus électoral. Et donc maintenant que nous avons des responsables de la NTIA, la responsable de la ministre du Commerce donc, s'est adressée à nous, nous avons la Maison Blanche qui s'est engagée par rapport à la transition, nous avons des responsables du Congrès des deux côtés, dans les deux chambres, dans les deux parties, qui sont alignés avec nous, qui ont exprimé leur soutien. Donc le travail politique a déjà été fait. Tout a été extrêmement bien compris par rapport à cette transition. Donc beaucoup de choses sont mises en place et il faut bien être conscient du fait que la communauté, les politiques, tout le monde est sur la même longueur d'onde. Et bien franchement, nous n'avons jamais vu ce type d'alignement dans différents pays comme le Brésil, l'Inde, etc. Nous n'avons jamais vu un tel niveau. Donc, c'est aujourd'hui, nous en sommes à un point dans l'histoire, un point clé dans tous les pays qui pourra nous permettre de réussir. Alors, je ne suis pas au centre du processus. Vous avez parlé de mon départ. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit du travail absolument incroyable que tous nous avons fait ensemble. Oui, bien sûr, j'ai été membre, comme vous tous, pour faire avancer les choses, mais mon départ de mon rôle à l'ICANN ne veut pas dire que je quitte cet espace important que j'aime et que je respecte. Je respecte la communauté. Donc je suis engagée, je vais terminer le travail et je crois que si notre travail se poursuit dans les temps, je pense qu'au moment de mon départ, avec quelques mois de flexibilité, nous aurons, je pense, terminé la phase 2. Tout le travail politique aura été fait, nous aurons obtenu toutes les approbations à Washington et à ce moment-là, ce qui restera à faire, c'est donc la mise en œuvre. J'espère que tout ceci pourra être terminé et je sais de toute façon qu'il y a une excellente équipe qui pourra s'occuper de terminer le travail. Merci Fadi. Nous avons une dernière question pour David Conrad. Pouvez-vous parler un petit peu plus de la carte de route technologique qui est en cours et quels sont les délais pour cette carte de travail? Cette carte a pour but principal d'identifier les domaines où les identifiants uniques vont évoluer, de manière à s'assurer que la CAN soit en mesure de suivre l'évolution et de continuer d'informer la communauté de la CAN par rapport aux changements qui auront lieu au niveau technologique, au niveau de ces identifiants. Les délais, d'une manière générale, pour cette carte de route correspondent à la carte de route associée à notre plan stratégique, donc environ 4 ans. Je suis sûre que vous le savez, la technologie de l'Internet change assez rapidement, donc 5 ans, c'est très long en temps Internet. Mais donc se focaliser là-dessus, c'est un bon moyen d'informer la communauté. Voilà. Merci David. Nous n'avons plus de questions, donc nous allons conclure notre appel. Je vais repasser la parole à Fadi pour qu'il puisse conclure. Merci à vous tous qui avez participé à cet appel trimestriel des parties prenantes. Comme vous le savez tous, ceci représente un des moyens que nous avons de confirmer et de réaffirmer notre engagement envers la transparence, la responsabilité et de nous assurer que la communauté est avec nous à toutes les étapes. C'est un travail un petit peu missionnaire de l'ICANN de servir l'Internet, de servir la communauté que nous avons à l'ICANN. Nous sommes dans une situation tout à fait positive et ces appels trimestriels, ces indicateurs de performance clés, donc le tableau de bord qui sera lancé en version bêta au mois prochain, tout ceci, ce sont des mécanismes qui nous permettent de rester alignés tous et de nous assurer que la performance que nous vous livrons, c'est la performance que vous souhaitez voir. Donc, je vous demande vraiment de rester vigilants de manière à ce que nous puissions travailler selon la manière que vous souhaitez, de manière à s'assurer que la mission de l'Internet est respectée. Merci encore une fois à tous les membres de la communauté qui donnent, sans compter, qui donnent de leur temps, de leur engagement envers la mission de la CAN. Merci pour le travail que vous avez fait, que vous continuez de faire, parce que ceci est un témoignage à l'importance de notre travail. Et nous vous remercions donc. Encore une fois, merci à tous. Et ceci étant, nous allons terminer notre appel.